à... Déjà, il y a un certain temps, fait une thèse sur la littérature dans Bouvard et Pécuchet à l'Université Paris 8 sous la direction de Jacques Neffs, hein, comme beaucoup d'entre vous. Et elle est actuellement chercheure au CNRS dans l'UMR Lire avec l'ENS de Lyon. Et elle est bien connue pour ses travaux sur Bouvard et Pécuchet. Elle a édité l'édition GF, publié un volume sur Bouvard et Pécuchet, une encyclopédie critique en farce chez Belin, qui est aussi un ouvrage de référence. Et elle a dirigé un programme qui a abouti à construire un site sur le second volume de Bouvard et Pécuchet, qui est tout à fait remarquable, sur la numérisation des dossiers de Flaubert et la construction d'un hypertexte critique qui permet de naviguer, qu'on a vu déjà au colloque de mars, hein, qu'elle a organisé sur les dossiers de documentaires de Bouvard et Pécuchet. Et donc, je lui laisse tout de suite la parole sur un cas d'extension possible du second volume du côté des notes de lecture. Voilà. Merci beaucoup.
Ça marche pas Est-ce que ça marche? Oui, là, c'est mieux. Hein, ça marche. Donc, merci beaucoup, Anne. Merci, Anne et Jacques, pour cette invitation. Je vais donc prendre le problème du côté du second volume, sachant que le second volume... aurait dû devenir fiction, lui aussi, puisqu'il aurait fait partie du roman. Mais bon, là, c'est quand même un cas un peu particulier. Je vais essayer de vous montrer un petit peu en quoi. Donc, Bouvard et Pécuchet est une œuvre inachevée. Flaubert meurt à la tâche le 8 mai 1880, alors qu'il est en train de rédiger la fin du 10e chapitre sur les 12 qu'aurait dû comprendre l'œuvre. Cet inachèvement de l'œuvre, et plus spécifiquement donc de son second volume, est un cas de figure très propice pour une réflexion sur les problèmes d'interprétation en relation avec la genèse particulière d'une œuvre. Cet inachèvement, en effet, ouvre la question du sens et, me semble-t-il, surtout empêche de la refermer. Mais cet inachèvement lui-même, s'il est réel et indubitable, est en quelque sorte à géométrie variable, puisqu'il est fonction des choix d'édition propres à chacun des éditeurs qui se confrontent au problème de l'édition du second volume. L'inachèvement de l'œuvre est donc lui-même problématique. On va tenter ici d'explorer cette idée d'un inachèvement à géométrie variable en tirant le fil des notes de lecture. Jusqu'où, en effet, peut-on aller dans les notes de lecture pour étendre le champ du second volume? Quelles sont les citations que l'on peut sélectionner alors qu'elles n'ont pas été effectivement recopiées sur des pages préparées pour le second volume? On va envisager différents cas de figure qui sont, vous le verrez, plus des prétextes à réflexion qu'un apport de solution qui se voudrait définitive. On va réfléchir ici, il me semble que c'est bien le lieu dans cette journée. Alors, je vais commencer par un rappel très rapide pour ceux pour qui la question du second volume ne serait pas familière. Qu'aurait été, pour autant qu'on puisse le savoir évidemment, qu'aurait été le second volume s'il avait été achevé, si Flaubert n'était pas mort à la tâche? Eh bien, ce second volume, ça aurait été une sorte d'ensemble de pages préparées, alors je reviendrai un peu sur cette typologie plus tard, donc des pages préparées pour le second volume, qui auraient été donc choisies par Flaubert, qui auraient été ordonnées selon un scénario développé, et qui auraient été reliées par des attaches narratives. Je prends ce terme d'attache dans une lettre de mai 1879 que Flaubert écrit à Georges Charpentier. Il lui écrit « Je n'ai plus que des attaches à y mettre ». Donc on peut penser que ces citations n'auraient pas été présentées brutes les unes à la suite des autres, ou que du moins il y aurait eu des moments où des attaches narratives, donc des moments vraiment de fiction, seraient venues mettre du liant entre les citations. Alors évidemment le problème c'est que ce second volume est inachevé, qu'on ne peut donc pas éditer le second volume et qu'on ne peut jamais éditer que une ou plusieurs reconstitutions conjecturales de ce second volume inachevé. Alors évidemment, du coup, on n'a aucune attache narrative, personne ne s'amuse évidemment à rédiger à la place de Flaubert ses attaches. On a un scénario, alors il existe des scénarios de ce second volume, des chapitres, enfin, du chapitre 11 et ensuite du chapitre 12 qui aurait été la conclusion, mais bien sûr c'est un scénario peu élaboré qui ne permet pas de comprendre toute la complexité que Flaubert aurait vraisemblablement mise. Et puis on a des pages préparées telles qu'on les trouve aujourd'hui dans les dossiers conservés à la bibliothèque municipale de Rouen. Alors je vais justement m'arrêter maintenant sur cette catégorie des pages préparées et essayer, pour ceux qui ne sont pas familiers, de montrer un petit peu de quoi il retourne. Alors, on va voir si on arrive à se connecter. Oui, formidable, ça marche. Merci pour les efforts et excusez-nous pour le changement d'ordre, mais c'était pour pouvoir vous montrer ça justement. Donc, vous voyez que sur le site d'édition des dossiers documentaires, vous pouvez trier les documents par catégorie, par typologie. Donc ici, par exemple, vous avez les 444 folios qui ont été typés comme pages préparées pour le second volume. Alors, on ne va pas détailler, on n'a pas le temps, mais juste je vous fais voir, l'essentiel des pages préparées pour le second volume, ce sont des pages qui comportent, qui sont souvent de la main de Laporte, le secrétaire et ami de Flaubert, donc qui sont bien écrites, on va dire, hein, qui sont bien calligraphiées, et qui comportent des catégories en haut de la page à gauche, et toutes les citations qui sont portées sur la page donc se rapportent à cette catégorie. Bon, je ne vais pas en dire plus parce qu'on n'a pas le temps. Je reviens. Donc, ces pages préparées, ces 444 folios, elles se présentent en fait sous le signe de l'excès, parce qu'il est bien évident, je pense, que Flaubert n'aurait pas utilisé toutes ces pages. Certaines auraient donné lieu à des reconfigurations, et sûrement il y aurait eu des choix effectués parmi ces citations. Puisque je pense que le second volume aurait mis en place un processus d'élaboration, un processus rédactionnel similaire à celui qui a été analysé dans les œuvres romanesques, à savoir, et en particulier par Pierre-Marc de Biasi dans son article célèbre, où il explique que dans la Genèse, on a d'abord une phase d'accumulation, hein, et puis ensuite une phase de réduction de la matière. Et je pense que le second volume n'aurait pas échappé à ce processus-là, et que donc là, on était dans la phase d'accumulation, et que la phase de réduction, eh ben, on ne l'a pas. C'est pour ça que je dis que 444 pages préparées pour le second volume, mais sûrement, enfin vraisemblablement sûrement, elles n'auraient pas toutes figuré dans le second volume achevé. Mais il y a aussi des manques. Des manques, puisque Flaubert n'avait pas terminé son travail, il aurait dû encore y avoir des lectures. Autre manque qui peut être répertorié, le fameux dossier disparu de Laporte. Quand Flaubert et Laporte se sont brouillés, Laporte aurait conservé une partie du travail qu'il était en train de faire. Bon, ça c'est un problème particulier. Mais surtout, ces manques, ce sont bien sûr les manques qui viennent du processus de rédaction qui a été interrompu. Et c'est cet aspect qui va ici m'intéresser et sur lequel on va s'arrêter. Donc, je reprends. Qu'est-ce que c'est que le processus rédactionnel usuel pour le second volume? C'est tout d'abord le fait que Flaubert prenne des notes sur l'ouvrage qu'il lit. Hein, il a lu, disons, il dit lui-même 1500 ouvrages. Sur chacun, il a pris des notes. Cette prise de notes, ensuite, il va la relire et sur les pages de notes de lecture, il va sélectionner un certain nombre de fragments. Donc, ces notes-là vont être marquées, pour les cas les plus clairs, pour la copie ou à copier. Donc, c'est ce que j'appelle les NL, les notes de lecture marquées. Et puis, ensuite, on a une nouvelle phase qui donne naissance à un nouveau type de page qu'on appelle les pages récapitulatives, RE. Ces pages récapitulatives, elles vont permettre de rassembler sous une catégorie particulière, par exemple curiosité médicale, un certain nombre de citations qui proviennent de notes de lecture différentes, donc d'ouvrages différents. Et troisième étape de cette genèse régulière, c'est justement le recopiage sur des pages préparées pour le second volume, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, en général de la main de la porte. Je vais juste vous montrer ce que ça donne très rapidement sur un exemple particulier qui est issu d'un ouvrage de Hufland, L'art de prolonger la vie humaine. Donc ici vous avez donc le morceau de manuscrit qui est donc une note de lecture. Vous pouvez lire Louis XIII, pendant ces 10 derniers mois, fut saigné 47 fois et pris 215 médecines avec 210 lavements, page 14. Donc vous avez une vedette saignée, une croix de sélection pour la copie qui indique cela. Et ceci va être repris, ce fragment va être repris sur une page récapitulative. Vous retrouvez le même fragment. Le titre de la page que vous ne voyez pas ici, je ne vais pas aller le voir, on n'a pas le temps, c'est « Curiosité médicale ». Et puis, vous avez une nouvelle vedette qui est « Beauté des princes ». Et troisième étape, cette fois-ci, la page préparée. Vous voyez, vous reconnaissez ici l'écriture de la porte, donc beaucoup plus lisible. Le titre de la page, cette page, donc, est « Les princes ». Et vous avez ce fragment qui apparaît au milieu de nombreux autres qui tous, donc, sont... concerne des princes, et cette page est rangée dans un sous-dossier qui s'intitule « Beauté », donc « Beauté des princes ». Donc voilà le mécanisme normal du second volume. Mais donc, ce processus normal a été parfois, a été souvent interrompu. Cet inachèvement donc rend légitime la démarche qui consiste à aller chercher dans les notes de lecture des fragments qui sont effectivement marqués pour la copie, mais dont on ne trouve pas trace sur une page préparée. Et donc, pourquoi est-ce que c'est légitime de faire ça? Parce qu'on peut partir du principe que c'est le manque de temps et la brouille avec la porte qui ont empêché ces fragments de parcourir leur cycle habituel. On se trouverait donc en présence de sortes de fragments de pages préparées en puissance, ou virtuelles. Et c'est en fait ce principe éditorial qui a fait émerger dans l'édition de Léa Caminiti en 1981 un certain nombre, un grand nombre même plutôt, de fragments textuels qui étaient auparavant inconnus, puisque les éditions qui proposaient des reconstitutions conjecturales de ce second volume puisaient essentiellement leur matière dans les pages préparées et non pas dans les notes de lecture. Alors bien sûr, c'est un cas d'extension du champ du second volume, mais d'autres sont envisageables, je vais juste les lister. Il y a dans les notes de lecture d'autres marques que cette marque particulière qui est à copier ou pour la copie. On a des marques qui sont des croix parenthèses ou croix parenthétiques, donc je vous ai mis à quoi ça ressemble, pardon. Donc cette croix parenthétique, cette croix parenthèse, elle est souvent mise en marge de fragments dans les notes de lecture, et on se rend compte, pour ceux qui ont donné lieu à des pages préparées, que c'est un déclencheur de recopiage dans une page préparée. Donc pour ceux qui n'ont pas effectivement été recopiés, on peut se poser la question de savoir s'ils n'auraient pas aussi légitimement leur place dans le second volume. Il y a même parfois simplement des soulignements ou bien des traits dans la marge qui peuvent être envisagés comme des marques suffisantes pour le second volume. Et puis aussi, bien sûr, la présence, hors marque que je viens d'évoquer, la présence de catégories de classement, comme beauté de l'administration, beauté de la religion, etc. Mais sans croix, sans marque à copier. Donc ça aussi, ce seront des choses qui seront peut-être à investiguer, mais ce n'est pas là-dessus que je vais m'arrêter maintenant. Ici, je vais m'arrêter sur un cas particulier de fragments qui appartiennent à des notes de lecture, qui sont sélectionnés par l'indication « à copier », mais qui n'ont pas été retenus par Léa Caminiti dans son édition, parce qu'ils posent des problèmes spécifiques. Quels sont-ils, ces problèmes? Eh bien, tout d'abord, ce sont des fragments dont l'extension textuelle ou la localisation ne sont pas précisément définis. On va le voir, donc je dis juste pourquoi. On a la mention de la page, quelques mots de caractérisation, mais on n'a pas le texte lui-même qui est à copier. Donc je vais revenir là-dessus, je vais expliquer. On a donc ici un cas de figure où la porte, selon toute vraisemblance, aurait dû convertir en texte cette indication de Flaubert, mais cela n'a pas été fait. Il aurait dû convertir en texte la porte grâce à l'ouvrage que Flaubert avait dû ou aurait dû lui remettre en même temps que ses notes, cet ouvrage devant comporter vraisemblablement dans ses marges des traits qui indiquaient le passage à copier. C'est donc en fait ici une sorte de fragment in absentia qu'on va essayer d'attraper. Si Léa Caminiti ne les a pas intégrés dans son édition, pour les raisons qu'on va voir, ils sont en revanche mobilisables par l'intermédiaire du module de reconstitution conjecturale du second volume, qui sera bientôt accessible sur le site du projet d'édition des dossiers documentaires de Bouvard. Mais pour cela, il faut leur donner une forme éditoriale qui rende possible cette intégration à une configuration particulière du second volume. On va donc regarder quelques exemples. Alors, premier exemple, un exemple qui est issu d'une page de notes de lecture prise sur un recueil de Lamennais. Il y a plusieurs textes et on a une seule note sur un texte particulier qui est, ici vous voyez le titre du texte, « Une voix de prison ». Vous avez la transcription ultra-diplomatique en dessous. Donc, qu'est-ce que Flaubert a noté ici ? Une voix de prison a copié la page 188, qui est la glorification des émeutiers, et mettre en marge, se figurer la tête d'un préfet lisant cela. Alors ici, on a donc un renvoi à une page précise de l'ouvrage, page 180, un commentaire qui donne la teneur du texte visé, donc qui est la glorification des émeutiers, et puis on a une double note de régie, à copier, donc qui indique que ce fragment est censé passer dans le second volume, et puis une note de régie qui va indiquer aussi une mise en scène, enfin quelque chose qui est de l'ordre de l'élaboration scénarique, mettre en marge, se figurer la tête d'un préfet lisant cela. Alors, la question maintenant d'édition de ce fragment, c'est bien sûr, que va-t-on mettre dedans ? Que va-t-on vraiment proposer comme transcription normalisé, parce qu'évidemment la transcription diplomatique, vous l'avez en haut de la page, c'est bien sûr ce qu'on trouve sur la note de Flaubert. On a exactement la même chose, mais la transcription normalisée, on a deux postures possibles. Soit on normalise simplement selon les critères qui sont ceux de l'édition le texte qu'on trouve effectivement, donc à copier la page 188, qui est la glorification des émeutiers. On a uniquement ce qui est en bleu et noir ici, et au début et à la fin. Mais il est du coup impossible, je pense, de comprendre ce que veut dire Flaubert, ce que vise Flaubert. Il est impossible aussi d'intégrer ce fragment dans une reconstitution conjecturale du second volume. J'ai donc choisi ici d'intégrer dans la transcription normalisée du fragment la portion de texte visée par Flaubert, en indiquant bien sûr très clairement, grâce à une couleur et grâce à l'usage de crochets droits, qu'il s'agit d'une intervention éditoriale. En fait, il s'agit donc de faire remonter dans le texte, entre guillemets le texte, ce qu'on pourrait mettre en note, mais qui prend ici une toute autre dimension, me semble-t-il. Et je veux juste lire un court passage de ce fragment de Lamennais, pour vous faire voir à quel point le fait de lire l'extrait de texte en même temps qu'on lit la note de régie et l'indication scénarique de Flaubert change l'effet de lecture et permet seul de comprendre pourquoi Flaubert était intéressé évidemment par ce texte-là. Donc je vous lis au milieu, « Troupe glorieuse des forts, vous êtes là près de moi et vous me dites, entends-tu, frère, les vieux martyrs qui d'en haut nous appellent, couronnés de splendeur, ils s'en vont, messagers divins de sphère en sphère, chantant le cantique de l'avenir. » Voilà, donc là, effectivement, c'est en lisant ces phrases de Lamennais qu'on peut imaginer la tête du préfet lisant cela. Tant qu'on ne les a pas sous les yeux, il est difficile de s'en rendre compte. Autre exemple, cette fois-ci, je le tire d'un ouvrage de Larocque sur l'Église. « Éloge de l'Inquisition », écrit Flaubert dans sa note, « Éloge de l'Inquisition par Falloux, 117, c'était par zèle de charité, a copié le texte. » Voilà ce qui est dans les notes. On a donc la caractérisation du texte visé, « Éloge de l'Inquisition par Falloux », un renvoi à une page précise de l'ouvrage de Larocque, et un tout petit morceau de citation qui déclenche le geste de la copie. Hein, c'était, on a juste l'expression « c'était par zèle de charité ». Et puis, la note de régie a copié le texte. Et là, donc, effectivement, on retrouve ce problème. Qu'édite-t-on ? Qu'édite-t-on en transcription normalisée ? Est-ce qu'on édite seulement ce qui apparaît ici, « Éloge de l'Inquisition par Falloux », page 117, « C'était par zèle de charité à copier le texte » ou est-ce que, comme je le choisis ici, on ajoute, toujours évidemment entre crochets droits et avec une couleur différente, ce que c'est vraiment que cette citation de Falloux, telle que Larocque la reprend dans son ouvrage, page 117. Et là, j'ai grisé une partie de la citation, parce que je pense que Flaubert n'aurait peut-être pas voulu reprendre cette partie-là, donc je vais juste lire la partie qui, à mon avis, mais là, hein, on est bien clair, c'est un geste éditorial, la partie qui, à mon avis, est visée par le désir de copie de Flaubert. Autrefois, la société tout entière était religieuse et constituée religieusement. Elle croyait, en arrachant un homme à l'hérésie, l'arracher à un supplice éternel. Et c'était tout le zèle de la charité qu'elle employait à combler l'abîme dans lequel des populations en masse pouvaient se précipiter aveuglément. Le sang répandu ne l'était qu'avec la plus vigilante sollicitude pour l'âme du coupable que l'Église s'efforçait jusqu'au bout d'éclairer et de reconquérir. Donc voilà, ça c'est la citation de Falloux par Larocque. Ce parti pris éditorial, qui consiste à intégrer donc dans le fragment textuel la citation visée, absente du fait des aléas d'une jeunesse chaotique, c'est ce qui a pour effet de produire un effet de lecture différent hein, par rapport au texte placé en note. Et c'est aussi ce qui permet techniquement d'intégrer le fragment complété dans une reconstitution conjecturale du second volume, telle qu'on pourra bientôt la produire. Mais ce principe éditorial ne va pas sans soulever un certain nombre de problèmes et sans poser un certain nombre de questions. Et c'est là-dessus, évidemment, que je vais maintenant m'arrêter. La question première qui se pose, c'est bien sûr l'extension du fragment textuel visé. Et je vais éclairer cette question grâce à l'utilisation d'un fragment d'une note de lecture que Flaubert a prise sur l'ouvrage du révérend père Huguet, Paris, ses crimes et ses châtiments. Voici ce que Flaubert écrit dans sa note, à copier, liste des attentats contre les rois de 1850 à 1871, page 65. Au premier abord, on retrouve exactement tous les éléments que j'ai énumérés dans les deux exemples précédents, donc ça ne devrait pas poser de problème particulier. Mais en fait, quand même, si. En effet, lorsqu'on se reporte à l'ouvrage, on se rend compte que cette liste, elle existe bien, il y a bien une liste des attentats contre les rois, mais elle se développe non seulement sur la page 65, mais sur la page 66 et la page 67, et j'ai surligné donc tous les rois, tous les monarques que le père Huguet a listés. Il y en a 17. Donc, on a un double problème, en fait. D'abord, la longueur de la liste, mais c'est en fait un faux problème, me semble-t-il, parce que dans les dossiers, on a effectivement, dans la rubrique énumération, des listes qui comportent un nombre d'items très élevé. Donc, pourquoi pas 17, pourquoi pas lister ces 17 monarques sur la personne desquels des attentats ont été perpétrés. Bon, c'est possible. En revanche, là où mon geste éditorial est encore en suspens, c'est savoir si, comme vous le voyez, donc c'est la liste des monarques est accompagnée du descriptif de l'attentat lui-même. Est-ce que Flaubert aurait tiré quelque chose, aurait voulu tirer des éléments de ce descriptif ou pas ? Là, évidemment, c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre. Donc, vraisemblablement, il faudrait s'arrêter à la liste des monarques eux-mêmes. Second exemple, et là je vais passer très vite, qui permet de voir un autre type de problème soulevé par cette décision éditoriale, qui donc concerne aussi l'extension du fragment textuel. Et cette fois-ci, je vais me référer à une note de lecture ou une page récapitulative. On peut hésiter pour la typologie, pour ce manuscrit, donc le folio 67 du volume 3, puisque vous voyez, il est constitué sous le titre de copie, donc une rubrique et une note de régie. En dessous, vous avez « Dans les pensées de Louis Veuillot recueillies par Charbonnel », donc ça, c'est l'ouvrage visé. Et là, vous n'avez quasiment pas de fragments recopiés de notes de lecture, mais uniquement une liste de pages avec vraisemblablement, qui renvoie vraisemblablement dans l'ouvrage à des paragraphes, des pages qui étaient cochées dans les marges hein, de l'ouvrage lui-même. Mais du coup, en l'absence de l'ouvrage, il est difficile de déterminer avec certitude les portions de texte que Laporte aurait dû copier. Dans certains cas, bon, je pourrais vous le montrer, mais ça serait trop long, dans certains cas, c'est faisable, les paragraphes sont suffisamment petits pour être identifiés, mais dans d'autres cas, on a plusieurs pages qui se réfèrent aux paragraphes, donc on ne peut absolument pas savoir quel était le morceau qui intéressait vraiment Flaubert. Le deuxième problème qui est soulevé, c'est celui des redondances, et là je vais aussi l'évoquer rapidement, en prenant un exemple dans un ouvrage, dans les notes de lecture que Flaubert a prises sur l'ouvrage de Paul Parfait, L'arsenal de la dévotion. Donc là, je vous ai juste mis les deux pages de notes que Flaubert a prises sur cet ouvrage, et j'ai mis, donc j'ai surligné toutes les croix, renvoyant donc pour le second volume, des fragments qui sont identifiés sous forme de références paginales, et qui quasiment tous, en fait, sont des anecdotes qui montrent l'efficacité, prétendue ou réelle, des crucifix, des scapulaires et autres ressources de la religion catholique. Bon, il est clair que même si tous ces passages avaient été copiés par Laporte, tous n'avaient pas vocation à se retrouver dans le second volume. On avait là vraiment quelque chose qui aurait été beaucoup trop redondant. Voilà, donc ça pose aussi ce type de problème-là. Le troisième problème soulevé me paraît intéressant, je vais terminer avec lui. Dans la mesure où ce geste éditorial que j'ai tenté de faire sur ces notes de lecture qui n'ont pas connu de recopiage sur une page préparée, eh bien, va jeter, me semble-t-il, un jour un peu nouveau sur les pages préparées pour le second volume, qui sont elles-mêmes issues d'une note de lecture. Donc là, je vais maintenant m'intéresser, décaler un petit peu mon propos et regarder des pages préparées qui existent donc, mais qui, me semble-t-il, peuvent maintenant être regardées d'une manière un peu différente. On pourrait donc se dire qu'en l'absence d'interruption du processus de genèse, en l'absence de problème d'identification des fragments visés, eh bien, les fragments marqués à copier sur une note de lecture ont été recopiés sur une page préparée par Laporte et donc ils ne posent aucun problème. Je vais essayer de voir que, en fait, ce n'est pas aussi simple. On le voit donc en analysant un dernier exemple que je vais prendre dans une note de lecture que Flaubert a prise sur un ouvrage d'Appert, le livre de tous les ménages. Donc là, on est dans le dossier de l'économie domestique. Et je vous ai d'abord mis sur le diaporama le fragment visé par Flaubert tel qu'on le trouve dans la note de lecture. Et je vais lire ce fragment. C'est pour vous particulièrement qu'il écrit, donc qu'il écrit, c'est l'auteur, on est ici dans une introduction qu'Appert a ajoutée à la troisième édition de son ouvrage. C'est pour vous particulièrement que l'auteur écrit, tendre et intéressante mère, qui êtes pour vos familles une seconde providence. Hâtez-vous de mettre ces procédés en pratique, hâtez-vous, etc. Un jour viendra où dans le triste hiver, la bouche enflammée de vos enfants malades sera délicieusement rafraîchie par ces substances salutaires. Un jour viendra où vous offrirez avec une douce satisfaction ces substances agréables. Trois points de suspension. Le plaisir commandera la reconnaissance, etc. Donc vous avez vu que j'ai appuyé fortement sur des choses que normalement on saute, mais qui ici me paraissent tout à fait importantes, puisque nous avons des manifestations qui sont propres à la prise de notes. Nous avons tous l'habitude, lorsque on veut aller plus vite, d'utiliser, etc., ou les points de suspension. Mais ici, la question est de savoir si, lorsque Flaubert abrège dans ses notes de lecture et qu'il demande à Laporte de recopier cette note de lecture, donc, que doit recopier Laporte ? Doit-il recopier le texte que Flaubert a abrégé tel que Flaubert l'a abrégé, ou doit-il recopier le texte complet auquel Flaubert fait référence? Et, en tout cas dans cet exemple, visiblement, Laporte a pris la deuxième possibilité. Il a choisi la seconde solution. On le voit dans la page préparée qui correspond donc à cette note de lecture. Je ne vais pas relire le passage, puisque c'est la même chose. Je vais juste vous faire remarquer, c'est entouré donc avec des ronds. Laporte a exactement recopié les etc., les trois points, tels que Flaubert les avait mis dans sa note de lecture. Et là, je vais juste m'arrêter sur le rectangle bleu. Laporte, vraisemblablement ici, n'avait pas le choix de prendre le texte de l'ouvrage. Il ne devait pas avoir l'ouvrage en main. Pourquoi ? Parce que Flaubert a mal écrit, ou du moins suffisamment mal écrit, sur sa note de lecture, le mot « procédé » pour que Laporte n'arrive pas à le lire. Et donc, ce qui explique que dans la page préparée, lorsqu'il a recopié Flaubert, il a laissé un blanc parce qu'il n'arrivait pas à lire « procédé ». S'il avait eu l'ouvrage en main, clairement, il aurait pu retrouver ce mot-là, comme nous, on l'a fait. Donc, là, dans ce cas précis, Laporte n'avait sûrement pas l'ouvrage d'Appert dans la main. Mais il me semble que ça ne suffit pas à expliquer qu'il ne soit pas non plus remonté à l'ouvrage pour remplacer les etc. par autre chose, parce que bon, sur d'autres cas, on voit que même s'il avait l'ouvrage en main, il a aussi recopié les etc. sans retourner à l'ouvrage source. Donc, on a donc ça c'est la page préparée, et maintenant il s'agit de se poser la question, comment est-ce qu'on édite cela ? Et en fait, on a deux possibles. Non, pardon, je vais quand même vous montrer le texte original, parce que c'est important de voir ce qui a été sauté. Donc, j'ai tout simplement fait une copie de l'ouvrage donc dans la bonne édition, telle qu'on la trouve sur Google Books, en mettant en valeur donc le mot « procédé », qu'on lit évidemment dans l'ouvrage, et puis en surlignant les morceaux qui ont été sautés par Flaubert dans sa note de lecture, et donc évidemment aussi par la suite par Laporte, dans sa page préparée. Donc je prends juste les petits morceaux qui ont été sautés. Hâtez-vous de mettre ces procédés en pratique. Hâtez-vous de recueillir avec soin le superflu de ces fruits, de ces légumes que les saisons favorables vous offrent en abondance et dont une maturité trop prompte va bientôt vous priver. Et la fin, un jour viendra où vous offrirez avec une douce satisfaction ces légumes agréables et ces fruits délicats que votre prévoyance aura su conserver. Le plaisir commandera la reconnaissance, le bonheur de votre famille sera votre récompense, et pour faire tant de bien, il ne vous aura fallu que le vouloir. Alors, non seulement, me semble-t-il, au niveau de l'effet de lecture, la redondance, l'effet oratoire qu'a voulu inclure Appert dans son texte, est ce qui a provoqué chez Flaubert le désir de copier cela, mais du coup, si on coupe... la redondance n'existe plus, donc me semble-t-il, l'effet de lecture est manqué, d'une part. Et puis d'autre part, sur la fin elle-même du fragment, lorsque Flaubert a écrit « Le plaisir commandera la reconnaissance », et lui, il avait mis « etc. hein, » etc. Laporte, lui, a transformé le « etc. » en un tiret long. Bon. Mais cette phrase-là, elle est à la limite de l'intelligibilité. « Le plaisir commandera la reconnaissance », point. On ne voit vraiment pas ce que ça veut dire. Si on ne complète pas par la suite de la phrase, on rate quelque chose. Et je pense que Flaubert ne pouvait pas vouloir couper cette phrase ici. D'où le problème de l'édition. Je vais aller dans le bon sens, ça sera mieux. Je conclue après avoir lu ça. Deux possibilités pour éditer ce fragment. D'une part, la manière dont a procédé Léa Caminiti dans son édition, donc en 1981, où tout simplement elle a repris au plus près le texte de la page préparée, en complétant évidemment le vide procédé, hein, en le mettant entre parenthèses, mais on retrouve les etc., les trois points, et puis le tiret qui a été transformé en point à la fin de la ligne. Et puis, la tentative que je voudrais essayer de mettre en place, où dans l'édition normalisée, je propose, toujours en mettant entre crochets et dans une couleur différente, de compléter les morceaux qui manquent afin de donner une version qui me semble plus cohérente avec le projet de Flaubert. Donc je conclue. Donc comme on l'a vu, l'inachèvement ouvre un questionnement du manque. Le second volume manque et il manquera à jamais. La nature ayant horreur du vide, le chercheur est tenté de le remplir, de le combler avec les matériaux qui sont à sa disposition, en donnant une existence à tous les fragments textuels qui auraient eu une chance, aussi ténue soit-elle, d'être retenus peut-être dans un second volume achevé. Cependant, comme l'a écrit Maupassant, l'esprit de Flaubert n'est plus là pour mettre du sens dans cet ensemble, pour le discipliner et le soumettre à l'impératif du beau. Et ce serait évidemment trahir la pensée de Flaubert que de juxtaposer tous les fragments issus de notes de lecture marquées à copier et de les ajouter à toutes les pages préparées pour produire le second volume. En revanche, permettre au lecteur, dans le contexte de la production d'une reconstitution conjecturale parmi d'autres, lui permettre d'appréhender d'un même mouvement la version textuelle exacte, abrégée ou absente que Flaubert a relevée, d'une part, lui permettre d'avoir aussi accès au texte original et à la réaction qu'a produit chez Flaubert ce texte, donc d'un seul mouvement, ça me paraît être un apport éditorial propre à éclairer significativement la question de l'interprétation qui nous occupe ici. Et c'est cet enrichissement que proposera le site d'édition des dossiers documentaires de Bouvard et Pécuchet. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette vraiment très belle démonstration de l'intérêt du site que tu as créé et de la, comment dire, des virtualités que permet le dispositif numérique. C'est tout à fait concluant. Et tu t'es référé à l'édition de Léa Caminiti. Il faut qu'il était sous-titré Reconstitution conjecturale, hein, du second volume de Bouvard et Pécuchet. Il faut rappeler que c'est une édition au départ fondamentale, qui a continué le travail de Cento, mais en même temps c'est une édition qui est une espèce de monstre au sens, une espèce de prodige qui est de compiler, d'essayer de compiler non seulement la copie fabriquée par Laporte et Flaubert, mais comme tu l'as très bien montré, complétée de fragments tirés des notes de lecture avec marqué copie. Et bien sûr, dans l'édition papier, c'est devenu statique parce qu'on ne peut pas montrer la mobilité comme tu l'as montré. Et puis, c'est forcément non exhaustif parce que le volume ne peut pas. Et c'est sur le même niveau, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la copie. Ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est effectivement de donner place à toutes les virtualités du texte sans conclure et sans choisir, et en donnant au lecteur ces moyens encyclopédiques. Et alors, en t'écoutant, je réfléchissais que c'est à la fois d'une richesse même indéfinie, presque une sorte d'œuvre ouverte et œuvre en mouvement au sens d'Umberto Eco, c'est-à-dire comme les 100 000 milliards de poèmes de Queneau, qui permet à chaque lecteur de construire son livre. Et en même temps, je pense que ça laisse la place à une édition papier telle que Jacques et moi-même nous la préparons, dans la mesure où il me semble qu'il y a une autre virtualité presque fictionnelle, c'est le devenir, l'effet de texte de cette hétérogénéité du chantier qui est donné à lire, qui peut être donné à lire au lecteur. Alors, sans essayer de reconstituer les citations qui pourraient manquer, mais de donner l'effet de texte, c'est-à-dire que l'édition normalisée, quand tu reconstitues, c'est un projet encyclopédique qui consiste à donner au lecteur les moyens de comprendre le travail de Flaubert, mais en même temps ça coupe l'effet de texte qui peut être justement l'ellipse, l'opacité, l'hétérogénéité. Je pensais à l'effet de liste de Veuillot. À lire, à copier, etc., il y a en fait l'ouverture de mondes possibles qui sont présents, et l'effet d'ironie, de décapage des textes, la coupure même qui rend le texte incompréhensible. Alors, on peut dire que La Porte n'avait pas le livre sous la main pour s'y reporter. On peut dire aussi que La Porte, finalement, préserve l'effet de texte. Et il me semble qu'il y a une lecture possible. Alors, bien sûr, il ne faut pas que le livre papier cherche à concurrencer le travail encyclopédique, ce n'est pas possible, mais il peut donner comme... en fait, c'est un peu ce que, finalement, des écrivains comme Queneau, comme Pérec, etc., ont rendu lisible, qu'on peut donner comme effet de texte, qui est peut-être un effet que Flaubert ne recherchait pas forcément, mais là, on n'est plus dans les intentions d'auteur, on est dans l'effet de réception, l'étrangeté, l'hétérogénéité. En fait, le projet initial, c'était que le lecteur soit pris en écharpe par le texte de Bouvard dans son double volume, et son double volume qui comprend le dictionnaire d'idées reçues. Donc il y a un effet d'énigme, d'opacité, que je voulais quand même souligner en contrepoint. Voilà. Mais j'ai déjà pas mal parlé.
Mais juste pour reprendre, bien sûr que une édition imprimée a toute sa place, avec des principes éditoriaux qui sont les siens.
Oui, mais oui, c'est ça.
Voilà,
c'est sûr. C'est... Non, mais c'est pas que je voulais pas simplement défendre la place
d'une
édition.
Pas du tout.
Mais dire que cet effet de texte. Là, on est dans l'amont encyclopédique. Il y a l'aval des faits de réception d'un texte qui est aussi bouleversant et inédit dans son projet. Et dans son projet qui, ce que je disais en introduction, inclut le miroir du chantier et du geste à copier, du geste à la fois encyclopédique et borgésien dans son ironie vis-à-vis du lecteur aussi, vis-à-vis du non-savoir qui est forcé. Mais peut-être juste y a-t-il des
oui. Juste, en fait, quand je montre les complétions éditoriales, il faut bien comprendre que la force de l'édition numérique, c'est qu'en fait, avec un seul geste, tu reviens au diplomatique. Bien et sûr. Donc, tu peux vraiment faire la balance et avoir très clairement sous les yeux ce qui était effectivement sur le manuscrit et puis les infos qu'on peut avoir en plus. Il ne s'agit pas du tout ce qui est dans le diplomatique.
Bien sûr, mais c'est toute la richesse et la polyphonie de ce dispositif, donc je suis vraiment convaincue. Mais ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a un autre mode de lecture continu, de la discontinuité, de l'opacité, de l'ellipse, etc., qui est aussi intéressant, c'est-à-dire non plus être du côté du dispositif encyclopédique, mais du livre, voilà. Mais peut-être y a-t-il des interventions, remarques. On a quelques minutes, justement, on va laisser Claude Mouchard.
Bonne question. On peut prendre la personne. Non, c'est passionnant. Évidemment, on a dit Internet, là, donne des possibilités. Internet, ça donne des possibilités, évidemment. C'est passionnant d'avoir effectivement tous les registres, les buts imprimés, l'édition imprimée, l'Internet qui permet de prolonger, d'aller dans tous les sens. Donc, c'est une remarque vraiment bouvardesque que je viens de faire là, mais encore, je m'énervais. Bon. Non, je veux dire, à propos plus précisément, à propos du commentaire que tu as fait, de l'édition que tu fais du passage, style confiseur. Moi, je trouve ça passionnant de remettre tout le texte, évidemment, pour un lecteur. Encore une fois, sur Internet, sur papier, ça serait impossible, ça n'aurait pas de sens. Mais tout de même, tu sembles penser que La Porte, ou Flaubert d'abord, au fond, souhaitait que ce soit complété. C'est-à-dire que, moi je me demande pourquoi là on est vraiment simplement dans le conjectural, c'est-à-dire si Flaubert avait voulu simplement indiquer à La Porte recopie tout le passage, il aurait pu simplement donner le début du passage et la fin du passage. Or il a recopié tout de même certaines phrases. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, non, parce que c'est toujours l'éternelle question, qu'est-ce qui lui fait copier tel ou tel passage? Pas simplement dire tel passage en général, mais telle phrase dans tel passage. à quel point il est capable de rendre un texte incompréhensible du point de vue du contenu que ce texte prétend vouloir délivrer. Et il met en évidence tout de même dans ses gestes où il met des etc. des points, il met en évidence dans ce qu'il recopie effectivement, plutôt des gestes de parole, des adresses au lecteur, enfin, le style du proviseur, beaucoup plus que le contenu, qui peut à la limite devenir totalement absent. Ce qui n'empêche pas que ce soit intéressant. Il donne par ailleurs.
Mais quand même, quand le style confiseur, il est quand même construit à partir d'une répétition, de l'usage de certains termes qui disparaissent. Et quand même, je répondrais quand tu dis, s'il avait voulu dire à la porte de copier entre tel mot et tel mot, il suffisait de le dire. Il ne faut pas oublier que dans le contexte d'une note de lecture, ça ne lui aurait plus été du tout utile à lui, puisque ça n'aurait plus voulu rien dire sur sa feuille à lui, puisqu'il n'avait pas le texte. Alors que là, il met en général la page, et puis l'esprit, ou la raison pour laquelle il faut recopier, et des morceaux, et puis il saute, parce qu'on le fait tous, parce qu'on sait ce qu'on veut dire, et on saute la répétition, on saute la redondance. Voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas dire qu'il avait utilisé le début et la fin de la citation en disant à la porte de compléter entre les deux. Mais après, que ça ait un sens tel quel, je ne dis pas du tout.
Jacques, vous voulez intervenir?
Oui,
Jacques Neff.
Merci de cette intervention tout à fait intéressante. Alors, il y a deux points pour continuer sur la citation. Et c'est vrai que l'ouverture par le site enrichit considérablement, y compris donc ça, c'est décisif. Qui n'ont pas été relevés jusqu'à maintenant par les académies, etc. Ce manque, en fait, dans cette immensité, ça ajoute beaucoup. Donc ça, c'est formidable. Je partirai d'abord de la question des textes interrompus. C'est vrai que c'est très utile, par exemple, de voir à quel point la redondance est significative, et c'est sans doute ce qui attire. Mais
le style.
Mais l'élision en même temps, les etc., je trouve ça extraordinaire, parce que n'est-ce pas une rédaction ironique de mettre etc. Stendhal lui-même employait etc. pour lui-même. Hein, dans certains textes, où tout à coup il se met à écrire comme dans l'époque, et il ajoute etc. C'est-à-dire, vous comprendrez très bien de quoi il s'agit. Donc on peut dire que la coupe, la césure, fait partie du montage ironique. Ça, c'est... Mais en même temps, c'est intéressant d'avoir précisément ce sur quoi l'ironique aime porter, c'est-à-dire la redondance, la répétition. Donc ça, c'est absolument révélateur.
Alors, donc, ceci étant, sur ce point précis, ce qui est étonnant alors, c'est que à de si nombreuses reprises, on ait ces renvois in absentia à des pages où donc Flaubert demandait à ce qu'on copie, et donc là, clairement, la porte ne pouvait pas copier autre chose que ce qu'il y avait bien sur la... Et là, il n'y aurait eu aucun, etc., il n'y aurait eu aucun...
Oui, mais alors,
c'est
là,
ça qui est un petit peu...
Là, il y a l'autre état des choses, c'est peut-être effectivement cette in progress, en cours de travail. On peut même imaginer qu'il va voir la page 188, parce que quelque chose l'a marqué, il y aurait à nouveau, et ça rejoint le début de l'exposé, évidemment, à nouveau, choix, c'est dire couper. Puisque, évidemment, on n'aurait jamais eu ces 440 folios. Donc, c'est un matériel en cours. Mais ce qui est passionnant dans ce que tu montres là, c'est effectivement qu'il y a, dans le geste de la copie, déjà, il y a l'introduction de, à la fois de ce qui sollicite ou ce qui retient dans ces pages, dans le style, dans l'ironie, et en même temps, déjà, une modalité de présentation qui serait ironique. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est tout à fait passionnant de montrer ça. Le deuxième aspect, effectivement, je reviendrai sur le début, mais ça, c'est plus bas, c'est important, la question de la fiction, c'est-à-dire que, d'accord, il y a peu de scénarios, mais les scénarios sont tout de même très clairs, et en particulier, ce qui est très clair dans le scénario, c'est la conjonction de la narrativisation du travail, ils le font, et de la présentation de l'objet. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le récit du travail, c'est-à-dire du geste de copier. Alors c'est vrai que, du coup, tu montres très bien que le geste de copier que Flaubert prête aux deux personnages, on l'a dans le geste même de Flaubert. C'est cette réflexivité qui a dans la présentation. Et c'est lié à la question même de la fiction de ce deuxième volume, de ce chapitre 11 et 12. Et le passage sur le duc d'Angoulême, sur le livre du duc d'Angoulême, est une sorte de petit modèle de ce que ça pouvait être, puisque la vie du duc d'Angoulême est à la fois il y a le récit de la recherche, et puis déjà une sorte de scénario du livre qui est présenté. Donc, en fait, la grande difficulté du chapitre 12, c'est cette construction du sujet, de la fiction du geste et du résultat. Hein? Alors, là encore, c'est effectivement un certain avenir d'œuvre qui sont laissés entrevoir. Ce que j'ai l'idée, c'est par exemple les enfants du monde, qui très typiquement actualisent la conjonction de fiction d'élaboration et le document lui-même. Et c'est une diversion. Donc sur ce geste de la fiction, ce rapport citation-fiction, évidemment, c'est complètement conjectural, soit entièrement d'accord, mais en même temps, on voit bien, on peut très bien mesurer dans quel champ de fiction ça pouvait aller dans ce sens. C'est-à-dire, il faut toute cette matière pour le voir. Et ce que tu montres très bien par les sites, c'est que c'était encore plus vaste que ce que vous savez jusqu'à maintenant. Ça, c'est parfait.
Ce que je voudrais ajouter, c'est le prolongement de ce qu'on a dit, c'est le fait qu'illustrer le style confiseur, c'est pas forcément copier toute la citation intermédiaire. C'est-à-dire, parce que l'idée, c'est de prendre, comment dire, de désarticuler les discours et de les couper de leur matrice d'origine et de leur matrice d'intelligibilité. Donc, on ne peut pas savoir ce que Flaubert aurait fait, et de toute façon, c'est le lieu d'aucune édition. Mais il y a cette dimension-là qu'il faut prendre en considération. Donc, voilà.
Une autre question, c'est cette zone non répertoriée jusqu'à maintenant, ça représente beaucoup dans les autres lectures.
J'ai pas fait le décompte.
C'est en cours de toute façon. Finalement, ça a l'air important.
Ah oui. Mais surtout, enfin, t'as plusieurs sphères. Quand j'ai indiqué qu'il y avait des extensions, d'autres extensions possibles, ça a si tu prends seulement ce qui est marqué à copier, ou si tu. Ils sont pas contents. Ou si tu accrois de ce qu'il y a. Avec des catégories ou les croix simplement, etc. Ça peut gonfler terriblement.
Et, je ne sais pas si ça a été résolu, cette question de savoir, bon, il doit y avoir plusieurs types de croix en marge et plusieurs signes, c'est-à-dire qu'il y a des signes comme on fait quand on prend des notes de lecture, parfois on note déjà des choses, et puis il y a les croix de relecture. Et là, on peut, c'est une hypothèse qui me vient comme ça, on peut se demander si. S'il ne faut pas essayer de penser des régimes différents de marquage, c'est-à-dire le marquage, tiens, c'est intéressant au fil de la prise de notes, et puis celui qui s'intéresse plus spécifiquement à dégager des citations pour la copie, pour une même page de
tout cela étant compliqué par le fait que tu as des croix qui sont, non pas pour le deuxième, mais pour le premier volume, et que tant qu'on n'aura pas tous les brouillon et qu'on ne pourra pas aller chercher pour être enfin, aussi sûr qu'on puisse l'être, hein, ce qui est toujours une sécurité relative. Mais au moins, on pourra voir que si tel passage est repris dans un brouillon, bon, ben, vraisemblablement, c'était pour le premier volume et pas pour le second.
Oui, ça peut être pour les deux. Voilà. C'est pas,
et ça peut aussi être pour le deux.
Pour les deux, et puis, comme dans beaucoup de dossiers de Genèse, il y a du surplus. Les écrivains lisent beaucoup plus et sélectionnent beaucoup plus qu'ils n'utilisent. Donc, on ne peut pas dire, mais j'avais été intéressée par, dans un article, je crois, de Tatsushi Yamazaki, je crois, j'espère que je ne me trompe pas, d'une hypothèse sur savoir si on pouvait distinguer les croix pour, qui étaient dans les notes de lecture pour le premier volume, et puis les croix plus une accolade plus copie pour le second. Et j'ai l'impression que, en fait, il faut tenir compte du contexte de la note de lecture, et il n'y a pas de modèle formel qu'on puisse. Enfin, ça sera développé.
Et il y a un modèle évolutif historique, puisque s'il n'y a pas les mêmes régimes entre 72 et 80, quoi. Les choses évoluent aussi historiquement.
Ça, c'est pas dit dans la prise de notes, parce que il a quand même un système bien à lui.
Ah non, sur les croix, c'est pas.
Sur les croix, c'est pas les mêmes. Bon, très bien. Écoute, d'autres. Alors, on va faire une pause, là, de 10 minutes. On reprend, disons, à 10 minutes, un quart d'heure. On reprend pile à 11h10.